Shalom, bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu encore pour ce moment de... Wow. Je suis heureux d'être là. Je ne sais pas ceux qui sont contents d'être là aujourd'hui. Il y a ceux qui ne sont pas contents, je vois. Ok, vous êtes contents dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore, c'est dimanche 28 décembre 2028. Si vous comptez avec moi... Aujourd'hui, nous sommes à 90,90% de l'année 2025. C'est une action de grâce. Et nous sommes au 361e jour. Vous voyez que nous sommes là, je pense, nous vivons encore. Et c'est une grâce que nous avons. Vous savez tout ce qui est arrivé au début de cette année. Peut-être avant d'avancer, je vais me présenter. Je suis Emery Moussihiro, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le responsable de la jeunesse ici à la paroisse, par la grâce de Dieu. Et je veux parler avec vous sur un thème très intéressant que j'ai intitulé « Architecte de notre avenir, bilan 2025 et vision 2026 ». Nous aurons des lectures. Avant cela, je vais nous demander plutôt d'inclure nos têtes dans la prière. Seigneur, nous disons merci pour ces moments que tu nous accordes encore en ces jours spéciaux, Seigneur Dieu. Voilà que nous voulons encore parler à ton peuple. Nous prions que tu disponibilises nos cœurs à t'écouter et que, Seigneur Jésus, tu m'utilises encore comme ton instrument pour que ces messages puissent transformer nos vies tous les jours. T'abandonnons tout entre tes mains. Cher Saint-Esprit, guide-nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous allons traiter sur la thématique architecte de notre avenir, bilan 2025 et vision 2026. Nous aurons deux lectures, je pense trois, que je vais demander à nos volontaires de nous lire. La première sera dans le psaume 90, verset 12, et la seconde, ça sera Luc 28, 30. Et la troisième personne va nous lire dans Habacuc, chapitre 2, verset 2 à 3. La première personne déjà peut nous lire, psaume 92, et les médias vont projeter ça quand nous serons en train d'avancer. Psaume 92, qui a trouvé, il peut nous lire.
Dans la parole de Dieu, dans les livres de psaume 90, le 12e vers, j'ai conduit la lecture au nom de Jésus.
Amen.
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen.
Amen. Oui, la deuxième lecture sera dans Luc 14, 28 à 30. Qui a trouvé?
Luc 14, 28 à 30.
Oui.
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De quoi qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent pas à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. »
Ouais. Merci. La troisième lecture, ce sera d'Habacuc 2, 2 à 3. C'est lui qui a trouvé Habacuc 2, 2 à 3. Il peut nous lire vite fait. Je vais lire vite fait Habacuc 2, 2 à 3 si vous n'avez pas trouvé. Alors, la Bible nous dit dans Habacuc, chapitre 2, « L'Éternel m'a répondu, écris la vision, grave-la sur les tablettes et qu'on les lise facilement. » Je vais lire le verset 2. Alors, comme vous savez, cette année, comme je l'ai dit, elle a commencé avec beaucoup de tumultes. Il y a eu la guerre qui a commencé ici à Goma, comme vous savez. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Nous avons aussi perdu beaucoup de biens. Mais Dieu reste toujours fidèle parce qu'il continue à nous préserver de tout mal jusque-là. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier toute personne qui s'est présentée aujourd'hui parce qu'on avait déjà une crainte, comme il pleuvait, les gens ne viendraient pas, mais Dieu vous a rendu disponible et vous êtes venu même sous la pluie. Et pour ça, je vais vous demander d'acclamer pour vous-même d'abord. Gloire au Seigneur. Vous savez, chaque nouvelle année a toujours des réalités. Et je me rappelle au début de cette année, beaucoup de gens, ils ont posté sur leur statut, nouvelle année, nouveau mois, sur les médias sociaux, je ne sais où, sur les Instagram, WhatsApp, Facebook. Tout le monde a eu ce courage de le faire et c'est pas mal de le faire. Nous le faisons bien sûr, mais des fois, soyons honnêtes, combien de fois nous avons dit cela pour nous retrouver 3 mois plus tard exactement au même point? Parfois, c'est difficile. Alors, Dieu ne nous veut pas de vivre une vie par hasard. Il veut que nous puissions être réalistes dans tout ce que nous faisons. Il veut que nous soyons intentionnels. Aujourd'hui, on ne va pas juste souhaiter bonne année. Je ne souhaiterais pas qu'on dise seulement bonne année, mais je souhaiterais qu'on apprenne à fermer un chapitre et proprement écrire un nouveau autre qui va commencer. Et c'est là avec l'encre de la sagesse et aussi de la foi. Nous venons de lire dans le psaume 92, il nous rappelle « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » J'aime bien la version Second 910 qui dit « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous portions un cœur sage. » À bien compter nos jours, afin que nous portions un cœur sage. Alors, je vais commencer par nous aider à faire une analyse, à faire une évaluation de l'année 2025. Et comment est-ce que vous pouvez bien faire une autopsie, pourquoi pas faire un bilan pour l'année 2025 qui touche vers la fin. Une des choses que vous devez apprendre est qu'on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas d'où on vient. Alors, évaluer, ce n'est pas se culpabiliser, mais c'est plutôt apprendre. Il y a des fois qu'on a peur, ah, je vais m'évaluer, peut-être que j'ai tout, n'ai pas réussi. Mais c'est important de s'évaluer parce que ça nous aide à apprendre, à corriger certaines erreurs qu'on a dû commettre. Imaginez votre vie comme une entreprise dont Dieu est le PDG et vous êtes les gérants. Vous savez tous qu'à la fin de l'année, je me rappelle même hier, notre comité élargi, commission élargie, on a fait un petit peu un bilan pour l'année 2025 de ce qui a été fait ici à la paroisse. C'est la même chose aussi dans nos vies. Nous devons avoir un moment d'évaluer ce que nous avons fui, ce que nous avons fait, pardon, au courant de l'année qui vient de s'écouler ou la période qui vient de s'écouler. Alors, certaines personnes ne font jamais ces bilans parce qu'elles n'y pensent pas, ou soit parce qu'elles ont peur du constant, ou soit parce qu'elles pensent qu'il n'aura pas, dit-il, à faire ces bilans. Si on amène notre voiture au garage, je donne l'exemple pour ceux qui ont des véhicules. Vous savez, chaque 3 mois, on fait une révision. Et il est important de le faire. Parce que si tu ne fais pas une révision, votre voiture va tomber en panne. Cette révision vous aide à bien gérer ces véhicules et aussi à le donner ou à rallonger sa durée de vie. C'est la même chose aussi pour notre vie. À la fin d'une période, nous devons nous asseoir et évaluer. Alors, vous vous rappelez bien que même Dieu, à la création, il avait fait une évaluation. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 1, verset 31. La Bible nous dit, à la fin de la semaine, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu lui-même, il a fait une évaluation de ce qu'il a fait. Après la création, il a vu. Ah, voilà, j'ai fait A, B, C, D. Et puis, il a dit à la fin qu'il y ait un soir et qu'il y ait un jour. Et vous vous rappelez même Jésus-Christ lui-même, il avait fait un bilan de ce qu'il avait fait. Si vous lisez dans Jean chapitre 17, le verset 4, Jésus, à la fin de son ministère, il a également fait un bilan. Je vais lire Jean chapitre 17, verset 4 à 8. Révéler ta gloire sur la terre. J'ai terminé tout ce que tu m'avais donné à faire. 6. Je te fais connaître aux hommes. Tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. 7. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En fait, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Là, c'est Jésus qui est en train de dire ça. Vous voyez que Dieu lui-même, il nous a montré la méthode. Pourquoi pas nous aussi les faire? C'est important de les faire. Alors, je vais vous proposer 4 questions, ou soit une méthode qui peut vous aider à évaluer l'année ou une période donnée. Et j'ai dénommé cette méthode RAP. Ce n'est pas les rap, hip-hop, R&B, mais c'est RAP. Et le premier R, c'est la connaissance. La reconnaissance de ce qui a marché. Vous devez prendre le temps d'être reconnaissant, avoir la gratitude envers Dieu et vous poser la question, qu'est-ce qui a marché? Et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Cela peut être un boulot que vous avez eu, cela peut être une promotion, cela peut être un mariage, cela peut être un diplôme, ça peut être aussi un péché que vous avez vaincu au cours de l'année 2025. Et la reconnaissance, elle est très importante. Alors l'action que je vais nous demander aujourd'hui, c'est de prendre le temps de remercier Dieu pour des choses spécifiques qu'il a fait au cours de l'année 2025. Une chose que nous devons savoir, noter ceci, est que la gratitude est le carburant de la foi pour l'année suivante. Il faut être reconnaissant pour des choses que Dieu a réalisées dans votre vie. La deuxième méthode sur les rap est l'apprentissage. Le deuxième A, c'est apprentissage. Et l'apprentissage, c'est sur quoi? L'apprentissage, c'est qui a échoué. C'est bien, on a réalisé beaucoup de choses, on est reconnaissant pour des choses, mais il y a des choses qu'on n'a pas bien fait ou des choses qu'on a échoué peut-être à faire. Posez-vous la question, pourquoi j'ai échoué sur telle ou telle chose? Pourquoi j'ai eu cet échec? C'est important. Est-ce que c'était la paresse? Est-ce que c'était des mauvaises fréquentations? Est-ce que c'était une manque de prière? Est-ce que c'était par négligence? Posez-vous ces questions pour savoir évaluer votre année. Notez ceci, que l'échec n'est pas fatal, mais c'est un professeur. Si vous avez échoué, ce n'est pas la fête du monde. Donc si tu as raté quelque chose en 2025, tu as juste découvert comment ne pas les faire ou comment ne pas les refaire en 2026. Le troisième point ou la troisième méthode, c'est l'épée qui veut dire la perte du temps. C'est qu'il faut éliminer. Qu'est-ce que tu as ne pas bien fait en 2025? Qu'est-ce qui t'a volé ton temps dans l'année 2025? Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des mauvaises fréquentations. Parce qu'il y a des gens qui, c'est normal, ils peuvent passer toute sa journée en train de scroller. Pose-toi la question, c'est ce que tu fais. Ça peut être les films, Netflix ou je ne sais quoi, ou des relations toxiques qui ne servent à rien, ou la procrastination. Parfois, la procrastination aussi nous amène à la perte du temps. Notez ceci, il faut avoir le courage de couper les branches mortes pour porter du fruit. C'est l'exemple de cultivateur. Vous savez, quand quelqu'un il a un champ ou vous avez un jardin, pour que cet arbre puisse pousser bien, il faut aussi couper ses branches mortes. Et ces branches mortes, pour votre vie, ça peut être des mauvaises fréquentations. Ça peut être des mauvaises relations. Donc, il faut évaluer tout ça et vous dire, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait et qu'est-ce que je dois améliorer pour l'année qui suit. Alors, rappelez-vous de ces 3 méthodes. 1, la reconnaissance. 2, l'apprentissage, je parlais aussi de la perte du temps. Vous savez, c'est toujours utile de se poser ces questions ou de s'évaluer parce que cela vous aidera à faire des grandes choses pour l'année ou les jours qui suivent. Vous savez, ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont insignifiants comparés à ce qui est en nous. C'est une des choses que nous oublions. Quand Dieu il nous a créés, il nous a créés avec tout. Je vais donner l'exemple. Bon, j'étais programmeur à un moment, je faisais des logiciels. Et quand j'ai fait un logiciel, je connaissais ce que ce logiciel va faire. Dieu aussi, il est notre créateur. En nous créant, il sait pourquoi il nous a créés et il sait pour quel objectif il nous a créés. C'est maintenant question pour nous de savoir pourquoi il nous a créés. Et Dieu n'a rien créé pour échouer. Dieu nous a créés pour réussir. Parce que nous sommes une créature merveilleuse, c'est ce que la Bible nous dit. Souvent, nous arrivons à échouer, je vais parler de ça dans les points qui suivent, parce que nous nous bornons à nous comparer aux autres. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il arrive des fois que vous avez réussi à une épreuve. Je donne un exemple d'un homme de Dieu qui a donné son exemple. Qu'un jour, ils sont allés à la proclamation. Et puis, il était le premier de la classe avec 69%. Rentré à la maison, sa mère l'a posé la question. « Mon fils, tu as eu combien ?» Il dit, « Maman, j'ai réussi, j'étais le premier de la classe. » Et puis, il lui demande, « Montre-moi ton bulletin. » Quand maman voit le bulletin, il voit, il a eu 69%. Sa maman l'a dit, « Écoute, tu pouvais avoir mieux que ça. » Vous savez, des fois, on est content parce qu'on a été les premiers par rapport aux autres. Mais en oubliant que nous pouvons être mieux comparés à ce qui est ancré en nous. Nous avons des potentiels que nous devons exploiter. Et le meilleur moyen de s'évaluer, c'est de s'évaluer d'abord par rapport à soi-même. Et ce monsieur, quand il a appris cela, il a commencé maintenant à travailler dur. Et il est revenu avec un résultat qui était maintenant excellent. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il nous dit « Or à celui qui perd par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans les noms, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Dieu nous a créés avec toutes les capacités, tous les potentiels. Mais parfois, nous avons l'attitude parfois d'oublier ces compétences qui sont ancrées en nous. La deuxième partie maintenant que nous voulons voir, c'est comment écrire la vision. Architecture 2026, c'est comme ça que je fais. Désolé, je ne suis pas architecte, mais j'ai trouvé ça comme thématique qui peut nous aider à comprendre ce dont nous allons parler. Et je me réfère au verset 2 du chapitre 2 du livre d'Habacouc qui nous dit que « L'Éternel m'a répondu, écris la vision, grave-la sur les tablettes, qu'on la lise facilement. » Notez ceci, une vision qui n'est pas écrite n'est qu'un souhait. Toute vision que vous avez, que vous n'avez pas écrite, c'est reste juste un souhait. Même la Bible nous rappelle, écrit, c'est bien dit dans les livres d'Habacuc. Alors, pour fixer 2026, ne fais pas juste des résolutions, mais fais des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Je pense, quand nous lisons dans Luc 14, 28, Jésus lui-même parle de la planification. Il nous dit dans Luc chapitre 14, verset 28, « Lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Vous voyez que c'est toujours important de bien évaluer, de bien planifier pour réaliser quelque chose de grand. C'est quoi maintenant l'objectif? Beaucoup de gens se posent cette question. L'objectif, quand je lis dans le dictionnaire Larousse, c'est le but qu'on cherche à atteindre, le point où on se propose d'arriver, où c'est qu'on vise. C'est bien ça l'objectif. Et tout ce que nous devons savoir est que tout le monde veut réussir, peu importe qui vous êtes. Vous voulez réussir. Même les criminels, même les voleurs, ils veulent réussir dans son assaut. Ça, c'est réel. Alors, bien que tout le monde veut réussir, tout d'abord, le plus grand ennemi de la réussite, c'est la peur de l'échec. Certains ont peur de poursuivre les réussites car ils croient qu'ils pourraient échouer. Et donc, ils n'essaient même pas de faire quelque chose de nouveau. N'ayons pas peur d'échouer. Dieu a créé toutes choses avec le potentiel de réussite. Ça, c'est bien connu. Parce que chaque graine que vous voyez a une plante qui viendra après. Alors, Dieu, en vous créant aussi, il a placé quelque chose en vous que vous devez reproduire. Rien n'a été créé au hasard. Alors, la réussite de votre vie dépend de votre capacité à devenir tout ce qui est enfoui en vous. La réussite ou le succès, c'est l'accomplissement de la raison d'être de votre existence, la raison d'être de votre but initial. Alors, le succès, on dira que c'est la réalisation de ce but. C'est la finalité même de votre existence. Ne mourrez pas sans avoir fini ce dont pourquoi Dieu nous a créés. Autrement dit, le succès ou la réussite ne se mesure pas à l'argent. Détrompez-vous. Non plus, le succès n'est pas posséder des grandes choses, des grandes maisons et une belle voiture. Faux. Le succès n'est pas avoir beaucoup d'amis. Non plus. Le succès, c'est en fait très simple. C'est découvrir la raison d'être et d'accomplir cette raison avant de mourir. Si vous avez compris pourquoi est-ce que Dieu vous a créé et vous réalisez c'est donc pourquoi Dieu vous a créé, c'est ça la réussite, c'est ça le succès. Donc, le succès, c'est l'accomplissement de sa mission. Alors, le succès de l'année à venir ou l'année 2025 n'essaiera de faire un pas de plus vers la réalisation de votre raison d'être. Vous savez, les temps que Dieu nous a donné, je dirais, c'est une portion de l'éternité que nous aurons. Dieu, il est dans l'éternité, il est dans l'infini. Et puis, il nous a mis dans les temps. C'est pour un but, c'est pour un objectif. Alors, quand il nous a mis dans ces temps, comment est-ce que nous gérons ces temps? C'est important, en fait, de toujours savoir pourquoi Dieu m'a placé ici. Le succès ne consiste pas à surpasser les autres par son intelligence ou sa qualité. Il y aura toujours quelqu'un de moins bon que toi. Il y aura aussi celui qui sera peut-être plus intelligent que toi. Si vous pensez avoir réussi, alors le succès ne devait pas se mesurer à vos réalisations par rapport à celles des autres, mais savoir la raison pour laquelle Dieu vous a placé ici. Le succès se mesure à ce que vous avez accompli ou à ce que vous avez accompli par rapport à ce que vous aurez dû accomplir. Donc, posez-vous ces questions, c'est important. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, quand je lis les statistiques du monde, nous sommes à 8,2 milliards d'individus sur la planète. Nous sommes à 8,2 milliards d'individus, comme vous pouvez voir. Pose-toi la question, dans les 8,2 milliards, quel rôle j'ai à jouer? Si vous ne trouvez pas de réponse, tournez-vous vers Dieu. Parce que Dieu vous a placé dans ces statistiques pour un but. Et quand je vois la projection 2100 que l'ONU a fait, je suis en train de nous voir en 2030, nous serons à 8,55 milliards. Vous voyez que nous continuons à augmenter. À 2050, si nous aurons la grâce d'être là, nous serons à 9,77 milliards. Et en 2100, si nous aurons la grâce d'être là, nous serons à peu près 11,18 milliards. Vous voyez, il y a toujours la croissance. Il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent. Il y a des générations aussi qui changent. Alors, posez-vous la question, quel est mon rôle à jouer? En réalité, la Bible dit que dans les plans de Dieu, la course n'est pas celle de plus rapide. On n'arrive pas en premier simplement parce qu'on est là. La vraie course, c'est celle de la persévérance et l'enchevêtrement de ce qu'on a commencé. J'aime bien Abraham Lincoln, il fut un président américain, il avait dit, ce ne sont pas les années dans votre vie qui comptent, mais la vie dans vos années. Cela signifie que la qualité et le sens de votre existence sont les plus importants que sa simple durée. La qualité et le sens de votre existence sont plus importants que votre durée. Donc, vivez pleinement chaque moment avec conscience et impact. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui avait dit que ce n'est pas les années que nous vivons sur cette terre qui comptent. Et voyons même l'exemple de Methuselah. Vous connaissez tous Methuselah, ok? Methuselah, c'est l'homme qui a vécu plus longtemps dans la Bible. Il a vécu 969 ans. Tout ce que la Bible dit de Methuselah, c'est les années qu'il a vécues. Parce qu'il a réalisé dans les 900 ans que Dieu lui a donné. Et vous verrez beaucoup d'hommes de Dieu, je vais donner même l'exemple de Jésus. Il a vécu que combien? Une trentaine d'années. Mais ce qu'il a fait, il a sauvé l'humanité. Donc, regardez-vous et dites-vous qu'est-ce que je dois faire. Ne regardez pas votre âge, mais regardez ce que vous devez accomplir avec votre âge. C'est important. Alors, comment est-ce que je peux définir des objectifs qui peuvent m'aider à bien faire l'année 2026? Je vais vous proposer aujourd'hui les critères SMART qui personnellement m'aident dans mes planifications. Alors, la méthode SMART, SMART, c'est celle que je nous propose. Donc, premièrement, il faut définir des objectifs qui sont spécifiques. C'est les S qui commencent. Je peux vous proposer cette méthode et peut vous aider. Spécifique, l'objectif doit être clair. Définissez-vous un objectif qui est clair, qui est précis et qui est simple à comprendre. Et le spécifique répond en question, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qui? Ça répond aussi à la question, où et comment? Sur la méthode SMART, il y a aussi les M qui veut dire mesurable. Mon objectif doit être mesurable. Un objectif mesurable, c'est un objectif qui doit être quantifiable pour pouvoir suivre les progrès, pour savoir comment est-ce que j'évolue. Et on se demande la question, combien? Ou comment savoir si ça sera atteint? Les A de la méthode SMART, ça veut dire atteignable. Mon objectif doit être atteignable. Ça veut dire l'objectif doit être ambitieux, mais réaliste. En tenant compte des ressources et des compétences disponibles pour motiver sans se décourager. Les R, ça veut dire que l'objectif doit être réaliste. L'objectif doit être pertinent et en lien avec le but général de l'entreprise personnelle ou soit de vos besoins personnels. Et ça doit avoir du sens. L'objectif, enfin, doit être temporel, défini dans les temps. Parce que si vous ne définissez pas votre objectif dans les temps, vous risquerez de ne pas bien l'accomplir. À part la méthode SMART, je veux aussi vous proposer comment est-ce que vous pouvez planifier votre année efficacement sous 4 piliers. Premièrement, c'est les piliers spirituels. Et c'est cela la fondation. Ne dis pas « je vais prier plus », mais dis-toi par exemple « je vais prier chaque 15 minutes le matin ». Et je ne vais pas toucher mon téléphone pendant un moment. Ce sont des objectifs que vous pouvez vous fixer spirituellement pour que vous puissiez être concentré. Pose-toi un objectif, je ne vais pas être en retard à l'église. Ça, c'est un objectif spirituel que vous pouvez vous dire. Vous pouvez aussi vous dire, bon voilà, cette période, je vais lire la Bible pendant une période bien définie. Et aussi, peut-être, je peux avoir un personnage biblique et je vais étudier ou je vais peut-être apprendre ou suivre un homme de Dieu qui peut m'inspirer. Par exemple, moi, il y a 10 ans de cela, il y a un homme de Dieu qui m'a beaucoup aidé, paix à son âme, il s'appelle Miles Monroe. Je suivais toutes ses cassettes presque chaque semaine. Il m'a aidé dans tout ce que je fais. Deuxième objectif, deuxième pilier, c'est l'objectif personnel ou intellectuel. Quelles compétences veux-tu acquérir? Posez-vous ces objectifs. L'année 2026, je vais peut-être apprendre l'anglais. C'est un objectif personnel que vous pouvez dire. Ou je vais apprendre l'informatique. Je vais apprendre à mieux utiliser l'intelligence artificielle. Parce que c'est à la une. Donc, vous pouvez aussi vous dire, je vais lire. Combien de livres je vais lire cette année 2026? Définissez-vous des objectifs personnels et intellectuels, c'est important. Troisième pilier, c'est l'objectif relationnel. Qui doit-il pardonner avant d'entrer 2026? Bon, il y a beaucoup qui ont eu des goumins, désolé à 2025. Mais apprenons aussi à pardonner. Qui dois-tu rapprocher? Un mentor ou une personne que tu veux peut-être apprendre de lui en 2026, un ami sage? Et aussi, qui dois-tu éloigner? Éviter des mauvaises relations. Parce que la Bible nous dit, dans le psaume chapitre 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. » Alors, trouvez des bons amis, des bonnes personnes qui peuvent vous aider à grandir. Le quatrième palier, c'est les objectifs physiques ou financiers. C'est important aussi de se fixer des objectifs financiers. Physique, parce que la Bible même nous rappelle de gérer ton corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Exercez-vous, c'est important, faites un peu de sport. Et aussi pour ton argent, il faut aussi avoir de l'aide là-dessus, c'est important. Un conseil pratique que je nous donne, choisis trois majeurs objectifs sur lesquels tu peux te focaliser cette année. Et définis les objectifs en utilisant la méthode SMART. Ça va vous aider énormément. Alors, pour avancer vers la fin de mon message, tout ce que nous pouvons faire, soumettons-nous entre les mains de Dieu. On peut avoir le meilleur plan du monde, mais le Proverbe, chapitre 19, 21, nous dit « Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, planifiez 2026 efficacement, mais ayez Dieu comme la base. Tournez-vous vers Dieu dans tout ce que vous voulez réaliser. Ce que je nous propose est que écrivons nos plans avec les crayons, mais laissons à Dieu la gomme. Parce que lui-même, il peut nous orienter, corrige là-bas, si nous les consultons tous les jours. Alors ne planifie pas sans Dieu. Dites à Dieu, voici ce que je désire faire, mais que ta volonté soit faite, parce que sans toi, je ne peux pas y arriver. Planifier sans Dieu, c'est être orgueilleux. Mais planifier avec Dieu, c'est avoir la foi. Alors ma prière pour l'année 2026, pour tout et chacun, c'est de demander à Dieu de bénir nos plans. Parce que s'il bénit nos plans, nous allons arriver à la réussite de ses plans. Et aussi, demandons à Dieu de nous donner les plans qu'il veut que nous puissions accomplir pour l'année 2026. Que ce ne soit pas seulement une année qui va passer, mais que ce soit une année d'impact dans notre vie. Alors, pour conclure mon message à tous, 2026, c'est une page blanche. S'il vous plaît, c'est une page blanche. Ne laissez pas que cette année soit écoulée sans rien faire. Et ne laissez pas non plus la peur que vous n'allez pas y arriver. Et tout ce que vous avez comme regret à 2025, oubliez ça. Commencez de nouveau parce que Dieu va vous aider à tenir les stylos. Dieu, lui, il est toujours prêt parce qu'il est alpha et oméga. Ça veut dire qu'il connaît les commencements, le début même de ce que tu veux réaliser et sa fin. Alors si on les consulte chaque jour, il saura nous guider dans tout ce que nous faisons. Prenez le temps de bien planifier l'année 2026, s'il vous plaît. Et négligez pas cette planification, sinon tout sera sombre. Moi, je vais vous donner mon témoignage personnel pour l'année 2025, pour finir. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, je vais réaliser un grand projet. Et c'était les projets de construction. Imaginez-vous, tu t'es déjà défini un objectif, et puis du coup, la guerre commence. Ça avait tout chamboulé. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais réaliser ces projets? C'est énorme pour moi, et regarde ce qui arrive. J'avais déjà commencé avec quelques travaux, mais je vous dis, personnellement, je vis la main de Dieu. Parce que j'ai réalisé cet objectif, bien que c'était impossible de le réaliser. On a traversé le moment des guerres, mais Dieu l'a rendu possible. Parce que j'ai gardé ma foi dans l'objectif que j'avais. Je suis resté persévérant. Soyons consistants, soyons réalistes et tournons-nous toujours vers Dieu parce que lui, il est capable. Alors vous aussi, bien que les défis peuvent être énormes, mais 2026, vous pouvez avoir ces boulots que vous voulez avoir. 2026, vous pouvez bâtir cette entreprise que vous voulez faire. 2026, vous pouvez peut-être avoir ces relations que vous voulez avoir. 2026, vous pouvez réaliser ces voyages que vous voulez avoir. 2026, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite tous une bonne année prospère et que Dieu vous bénisse. Amen.
Acclamons toujours le président pendant qu'il se dirige vers sa place. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Merci, président, de nous avoir encore interpellés aujourd'hui.